Le tribunal de Dieu est un tribunal juste. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Voilà une description du tribunal de Dieu qui attend tous les hommes. Dieu dit, le jour des comptes, nous plaçons les balances qui sont absolument justes pour peser les œuvres des êtres humains. لا تظلم نفس شيئا. Aucune âme ne sera lésée. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Si un être humain fait l'équivalent d'un atome, misqalu khardalin, ça c'est certainement une mesure qui équivaut peut-être à l'atome ou à la molécule, équivalent en bien ou en mal qu'un être humain fera dans ce monde d'ici-bas, Dieu dit qu'il le fera paraître devant l'être humain, sans rien y oublier. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et Dieu a dit, nous sommes tout à fait suffisants en la matière, c'est-à-dire en matière de comptabilité. Il n'y a pas un comptable, il n'y a pas une comptabilité plus parfaite, plus précise que la nôtre. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, les gens qui n'ont pas connu de messager, par rapport à cela, je vais tout simplement vous citer un verset du Coran qui concerne précisément cette question. Dieu a dit, subhanahu wa ta'ala, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Il n'est pas question que nous sanctionnions, que nous persécutions qui que ce soit, ou que nous punissions qui que ce soit, précisément c'est bien sûr la punition, avant de lui avoir envoyé un avertisseur, un prophète qui vient lui donner l'information qu'il a accepté ou qu'il n'a pas accepté. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Mais Dieu nous a dit autre chose. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'y a pas une communauté qui n'est connue d'avertisseur. Il y a cela aussi qui est très important à comprendre. Toutes les communautés ont connu des avertisseurs, c'est-à-dire des prophètes, des envoyés de Dieu. Et cet envoyé de Dieu n'est pas forcément un prophète. Il peut être un envoyé de l'envoyé de Dieu. Un ouléma de l'islam qui vient parler de l'islam à une communauté donnée, à des gens, quelque part, il est également un avertisseur, parce qu'il est un envoyé de l'envoyé de Dieu. Parce que le prophète nous a dit, alayhi salatu wasalam, les prophètes ne laissent pas un héritage, ne laisse un héritage ni dirham ni dinar. Ce qu'il laisse un héritage, c'est le message de Dieu, c'est la sagesse, parce qu'il vient enseigner la sagesse. Il n'y a pas meilleure sagesse que de dire craignez Dieu, suivez la voie de Dieu. Dans l'évangile que nous avons aujourd'hui, dans sa forme actuelle, on nous dit, vous pouvez lire la crainte de l'Éternel et le début de la sagesse. Craindre Dieu pour eux, c'est le début de la sagesse. En islam, ce n'est pas le début de la sagesse, c'est la sagesse même. Le prophète a dit, alayhi salatu wasalam, Ratul hikmati makhafatullah. L'essence même de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ou la crainte de Dieu est l'essence même de la sagesse. Si vous trouvez quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quel que soit le qualificatif de sagesse qu'on lui donne, ne croyez pas à cela, il n'est pas sage. Le premier critère de sagesse, c'est la personne qui craint Dieu. C'est la personne qui cherche à aller vers Dieu, c'est la personne qui se conforme à l'ordre de Dieu. Ainsi donc,
voilà,
allons-y.
Alors un voleur est pris en flagrant délit en dessus, alors qu'est-ce qu'il y a par rapport à
Il a été pris en flagrant délit et on l'a tué. Mais ça dépend de quelle manière il a volé. Bon, un voleur qui escalade le mur, qui viole un domicile, n'est-ce pas? Il peut être couvert par une autre loi ou par un autre verset du Coran, parce que il y a la définition du vol qui est par exemple de prendre quelque chose, un bien qui ne lui appartient pas, qui est protégé quelque part, n'est-ce pas? Avec un minimum qui a été dit, qui fait que cette personne-là, si on la prend, la sanction c'est de lui amputer la main droite, n'est-ce pas? Ça fait donc, ça c'est dans le cadre du code pénal de l'islam. Mais quelqu'un qui escalade le mur, qui arrive quelque part où il y a des gens, les propriétaires, les gens qu'il veut cambrioler sont là et qu'il y a même peut-être une menace à leur vie, cette personne peut être couverte, ou ce voleur peut être couvert, ou ce malfaiteur, par le verset du haraba. Innama jaza'u alladhina yuharibuna al-haraba plutôt. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا etc. jusqu'à la fin du verset. C'est-à-dire le verset qui dit que les gens qui combattent Dieu et son prophète et qui répandent le mal sur la terre, leur sanction, c'est donc soit les tuer, ou bien les pendre, parce que ça c'est laissé à la discrétion du chef de l'État islamique. Le problème monte chez lui et c'est lui qui juge. Est-ce que cette personne-là, qui a menacé l'ordre public de cette manière-là, qui n'est plus donc un voleur ordinaire, est-ce qu'il faut, selon la gravité de l'acte, l'exécuter, le pendre, ou lui couper les membres, en croisée, c'est-à-dire, si vous voulez, s'il faut couper par exemple la main droite et le pied gauche ou vice versa. Alors donc c'est cela dans ce cas-là. Mais attention, là c'est un État, c'est l'État, c'est l'autorité qui décide. Ce n'est pas les individus. Donc c'est l'État qui doit savoir, qui doit donc faire le jugement. Mais dans la foulée, si quelqu'un vole en public, etc., les gens dans leur colère se ruent sur lui pour le battre et par accident il meurt. Évidemment, on doit faire des investigations sur la question. Si on trouve que ce n'est pas, il ne mérite pas cela, etc., peut-être qu'il y a, Allahu alam, des réparations ou des dommages d'intérêt à payer, etc.
Voilà.
Allahu alam.
Voilà, j'ai une question assez curieuse là. Si ma soeur, le vendeur, c'est-à-dire l'épouse des genoux. Elle ne parie jamais, mais elle vend pour gagner sa vie. Nous l'avons toujours empêché de travail, mais elle refuse. De ma part, moi aussi, je n'ai jamais acheté, mais je prends le programme pour lire et écrire des tickets. Pour mon cousin qui me porte, quel constat faites-vous pour ma soeur et pour moi-même?
Je ne parle pas de la sœur, je parle plutôt de ce fléau, n'est-ce pas, du FEMI qui a ouvert des tentacules dans les pauvres pays d'Afrique pour les exploiter. L'autre jour, on nous a dit que c'est 6 milliards de francs CFA qui sont. C'est une hémorragie de 6 milliards de francs CFA qui se fait d'un pays comme le Niger vers la France, un pays dont on connaît la situation aujourd'hui, vers un pays dont on connaît également la situation, l'une des puissances économiques du monde. Ça, c'est vraiment une honte. C'est abominable, c'est immoral, c'est amoral. Alors, mais malheureusement, ce sont les musulmans, ce sont les peuples de ces pays-là qui prêtent le flanc. N'est-ce pas, qui se font exploiter, qui se font sucer. De grâce, ne le faites pas. Cela ne vous enrichira jamais. Même si la personne gagne le grand lot dont on parle, ça ne comporte pas de baraka de la part de Dieu. C'est une voie démoniaque. Dieu nous interdit de nous enrichir ou bien de gagner notre pain de cette manière-là. Ça, c'est de l'exploitation pure qui se perpétue du fait de la situation de pauvreté culturelle et spirituelle dans laquelle nous vivons. C'est pourquoi nous acceptons une telle situation. Organisons-nous. Ces 6 milliards-là, nous pouvons les récupérer d'une autre manière, les fructifier et contribuer à lutter contre la pauvreté, contre le chômage, contre la misère, contre la maladie, contre tous les fléaux qui sont en train de nous miner. Il n'y a pas que le PMI, malheureusement. Il y a leur alcool, les whisky qu'ils nous vendent, les grandes marques. C'est ce qu'ils appellent ça, les grandes marques de whisky, de champagne et autres qu'ils nous vendent et que les gens achètent ici, qui parfois malheureusement sont des musulmans. Donc il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres volets. Il est grand temps que nous nous ressaisissions, que nous revenions à Dieu, que si nous voulons la richesse, si nous voulons le bien-être, que nous le cherchons de Dieu qui détient les trésors des cieux et de la terre. Que nous ne nous trompions pas d'ennemis ou d'amis. Ces gens-là ne nous aiment pas, ils ne sont pas nos amis. Ils sont nos ennemis, ils nous exploitent. Imaginez-vous des gens qui ont un produit national brut, un PNB de 3 000 à 5 000 dollars par tête d'habitant qui viennent exploiter des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui vivent le ventre creux, etc. Alors donc, véritablement, il est temps que nous ressaisissions, que nous retrouvions, nous puisions notre force, notre énergie dans notre foi en Dieu, dans l'islam. Et que nous puissions nous organiser pour créer des fonds, au lieu d'alimenter le fonds du PMI, alimentons un fonds de la Zaka, un fonds de solidarité islamique, un fonds du pèlerinage, un fonds d'investissement, un fonds de solidarité, etc., par lesquels nous pouvons nous prendre en charge et lutter contre la pauvreté et la misère dans laquelle nous sommes. Et surtout après que aujourd'hui, alhamdoulilah, les dirigeants ont pensé enfin à prêter serment sur le Coran. Il est grand temps que nous revenions donc sur toute la ligne vers le Coran et que le PMI soit supprimé, que l'on sache que la suppression du PMI est partie intégrante du serment, du serment qui a été pris. Dans le cadre du serment, il faut supprimer, parce qu'on a dit préserver les intérêts, défendre les intérêts du peuple. Il n'est pas du tout des intérêts de ce peuple-là, musulman, que les vendeurs d'alcool, les vendeurs de champagne, les vendeurs de PMI et autres viennent sucer le sang des travailleurs et des musulmans qui sont là. Véritablement, je crois que tout cela rentre dans le cadre d'un travail concerté que les musulmans doivent faire pour se prendre en charge. Wallahu a'lam.
Voilà, nous avons une question. Vous venez de tenir une série de conférences. Pour celui qui n'était pas au rendez-vous, est-ce que la Nati a préparé quelque chose? Cathlet, par exemple. Voilà, ça, c'est...
A préparé quoi?
Les cathlets. Donc ça intéresse la structure, toutes les conférences du chef d'Issus, son dialogue, c'était enregistré sur cathlet vidéo et cathlet audio, disponible à l'association nigérienne pour la solidarité islamique, pour l'appel et la solidarité islamique que vous aurez en fin de Ramadan, inshallah. Nous passons à notre question, chef. J'ai lu dans un livre que tous les prophètes ont pour religion l'islam. Est-ce vrai?
Cela est tout à fait vrai. Tous les prophètes. Pourquoi nous on demande en islam de croire à tous les prophètes et à tous les messages révélés? C'est parce qu'ils ont tous véhiculé dans leur essence des messages qui cultivent et qui appellent à l'islam, qui veut dire tout simplement la soumission à Dieu. C'est le mot arabe islam veut dire soumission à Dieu. Tous les prophètes sont des musulmans. Ils sont venus véhiculer le message de l'islam. Mais j'ai dit que les messages de tous les prophètes ont été abrogés par le Coran. Aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et que si un de ces prophètes réapparaît aujourd'hui, par exemple, nous attendons la venue du prophète Isa ibn Maryam. Quand il viendra, ce ne sera pas l'évangile qu'il va appliquer, mais il va suivre le Coran. Inch'Allah. Donc tous les prophètes sont musulmans. Isa ibn Maryam, c'est Jésus en français. Donc tous les prophètes sont des musulmans. Et Inch'Allah, ils seront tous au paradis avec les musulmans. Et les gens qui les auront suivis également. Mais après leur disparition, par exemple aujourd'hui, que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul valable, il ne suffit pas de croire par exemple en Jésus pour être sur la voie de Dieu. Il faut croire en Jésus et en plus de Jésus, croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en son message. Et le Coran a dit que tout chrétien par exemple qui a cru en Jésus et qui ensuite a découvert le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a cru en son message, Dieu va lui donner une double récompense. La première récompense, c'est la foi en Jésus. Deuxième récompense, la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens du livre sont invités à croire au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Ça c'est l'invitation qui a été adressée aux gens du livre. Ô vous qui avez le livre, ô vous qui avez les écritures, venez vers une parole commune entre nous. Nous n'adorons que Dieu. C'est-à-dire, venez pour que nous n'adorions que Dieu. Que nous ne désignions aucun associé à Dieu. Et que nous ne prenions pas des gens parmi nous, nous ne prenons pas ou nous ne considérons pas des gens choisis parmi nous comme des divinités en dehors de Dieu, c'est-à-dire comme par exemple un pape qui a la possibilité de changer le message, parce que changer le livre de Dieu, changer la parole de Dieu, c'est se mettre à la place de Dieu. C'est se déifier soi-même. La parole de Dieu est intouchable. On ne l'altère pas, on ne le touche pas, on y croit telle qu'il a été, elle a été révélée. Alors voilà ce qu'on peut dire sur ça.
Voilà, puisque nous parlons de Jésus, là, nous allons y rester. Il y a une question là-dessus. L'auditeur dit, y a-t-il un verset où Allah demande à Jésus que c'est toi qui as dit que je suis ton père?
Oui, il y a le verset qui se trouve dans sourate Al-Ma'ida. A'anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah. Il y aura un dialogue le jour de la résurrection qui a été enregistré par le Coran entre Dieu subhanahu wa ta'ala et Jésus. Dieu dira à Jésus, est-ce toi qui as dit aux hommes de t'adorer, de te désigner toi et ta mère comme des divinités? Parce qu'en fait, on adore Dieu, on adore Jésus, chez les chrétiens, Jésus est déifié. Et si vous voulez le savoir, et même pas Jésus seulement, Jésus, les papes, tous les saints de la chrétienté sont en fait des divinités. Si vous voulez le savoir, j'ai eu l'occasion de le vérifier personnellement lorsque j'ai visité la basilique Santa Maria Maggiore à Rome. Je suis rentré dans cette basilique en touriste, je l'ai visitée, c'était d'ailleurs une visite guidée. Il y avait quelqu'un qui guide les touristes, il a un micro, il explique. C'est une forêt de statues, l'intérieur de cette basilique. Une forêt de statues. Et d'ailleurs, toute la ville de Rome, c'est des statues. Même les gouttières des maisons, c'est une statue. C'est Zeus, c'est Athéna, c'est Jupiter, c'est Pluton, etc. partout. Et quand vous rentrez dans cette basilique, parce qu'il y a une transposition. C'est des peuples qui, avant de rentrer dans le christianisme, adoraient les dieux du mont Olympe, comme vous le savez. Si vous voulez, vous pouvez vous référer à l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Tous les dieux du mont Olympe, cette multitude de divinités, chaque chose a son dieu. La mer a son dieu, l'amour a son dieu, le vent a son dieu, la foudre a son dieu, etc. Une multitude de divinités. Alors quand ils sont rentrés dans le christianisme, ils ont tout simplement transformé ce qu'ils appellent les saints de la chrétienté en divinités. C'est cela, des statues. Vous verrez Saint Augustin, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, Saint ceci, Saint cela, tel pape qui a vécu, tous les papes ont leur statue à l'intérieur de la basilique. Et on vous guide, on vous dit, voilà, c'est tel pape qui a vécu de tel, avec sa statue. On vient, on se recueille devant et on continue. Ainsi de suite. Donc, c'est le sens de ce verset. Jésus, n'est-ce pas la question que vous avez posée par rapport à Jésus? Justement, donc le jour des comptes, il y a un dialogue entre Dieu et Jésus. Jésus dira, il répondra à Dieu, si je l'ai dit, tu l'auras su. Parce que tu sais ce qui est caché, je sais ce qui est, et je ne sais pas moi ce qui est caché. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, oh Dieu. Et puis Jésus en ce moment qui dit, in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Jésus dit à Dieu, si, en tout cas je ne leur ai pas du tout dit, je ne leur ai dit que ce que tu m'as dit de dire. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire. Adorez Dieu et ne lui désignez aucun associé. J'étais témoin quand j'étais vivant, quand j'étais avec eux, j'étais témoin de ce qu'ils avaient fait, mais lorsque tu m'as appelé vers toi, je ne sais plus ce qu'ils ont fait après moi. Si tu les détruis, si tu les punis, eh bien, ils sont tes serviteurs, ils sont tes créatures. Si tu leur pardonnes également, tu es le Seigneur de la miséricorde et du pardon. Ça, c'est le plaidoyer qu'il va tenir devant Dieu le jour des comptes. Et quelle est la réponse de Dieu? Est-ce que Dieu a dit dans le Coran qu'il va leur pardonner? Non, Dieu ne l'a pas dit. Ahaza yawmun yanfa'ul mu'minina sidqum. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Aujourd'hui est un jour où les véridiques vont bénéficier de la vérité dont ils ont fait preuve. Ceux qui ont suivi la vérité, eh bien, ceux qui ont été véridiques, aujourd'hui tireront profit de cela. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il va récompenser les gens qui ont été véridiques par la vérité. N'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas dit qu'il va leur pardonner parce que c'est un grave péché. Nous savons que Dieu a dit dans le Coran que parmi tous les péchés, Dieu a décidé de pardonner tous les péchés. Ou bien Dieu a dit qu'il pardonnera, qu'il peut pardonner tous les péchés en dehors d'un seul. Dieu a décidé de ne pas pardonner ce péché, le péché de l'associationnisme. Or, de ce qu'on appelle le shirk. Or, les chrétiens, nous le savons, ce qu'ils font, c'est du shirk. Surtout quand ils disent que Dieu a un enfant ou que Dieu a une conjointe. N'est-ce pas? Ça, c'est extrêmement grave. Et eux-mêmes, ils ont de grands problèmes avec ça aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce qu'ils essaient de faire des détours pour dire non, on n'a pas dit qu'il est le fils exactement comme le fils de l'homme, mais parce que voilà. Et pourtant ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils se contredisent même lorsque Jésus, qui pourtant pour eux est une divinité, est Dieu lui-même. Parce que pour eux, Jésus est Dieu, Jésus est aussi le Fils de Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié, vous savez, dans le Coran, il y a le cri de Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné, ô mon Père? Voyez-vous, il ne double personne. Il est Dieu, il a été crucifié, il a été tué, il a été livré à des gens qui l'ont pris, qui l'ont assassiné. Il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Et il meurt, on l'enterre. N'est-ce pas? Et ensuite, on dit qu'il est ressuscité. Qui le ressuscite, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre Dieu qui le ressuscite. Donc il y a vraiment des tas de problèmes dans ce fameux mystère de la Trinité, ce qu'ils appellent le mystère de la Trinité. Et c'est la raison pour laquelle je lisais tout à l'heure dans un livre où on dit, dans leur système, dans leur credo, qu'on croit à telle chose, je crois parce que c'est absurde. On y croit parce que c'est absurde. Exactement le contraire même de ce que le musulman, de la position du musulman. Parce que le musulman dit j'y crois parce que j'ai une explication rationnelle à cela. Le Coran est irrationnel puisque c'est la révélation, ça vient de Dieu. Mais nous avons une explication rationnelle de la véracité de cette chose-là qui est le Coran, qui est de cela, de cette parole de Dieu qui est au-dessus, qui est au-delà de notre entendement, de notre raison. Pour eux, j'y crois parce que c'est absurde. Subhanallah.
Voilà, nous allons continuer pendant qu'il est à 2h. Pourquoi des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, restent insensibles aux problèmes des musulmans du monde, tels que le bombardement de Brodmi, la misère dans les pays comme le Niger, etc.
Eh bien, la réponse est très simple. Ça, il n'y a pas une autre explication que la situation lamentable dans laquelle se trouvent les musulmans après qu'ils aient tourné le dos au Coran, qui est la source de leur force et de leur puissance. Les musulmans ont tourné le dos au Coran. Ils ont peur, n'est-ce pas? On a peur. Lorsqu'on a peur de mourir, nous savons ce que le prophète nous a dit. Le prophète a prophétisé par rapport à cela, hein. Ce n'est pas seulement l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, il y a aussi le Niger qui est concerné. Est-ce qu'il y a des mutatawwi'in, c'est-à-dire des volontaires musulmans du Niger qui ont dit on est en train de tuer nos frères musulmans en Tchétchénie, à Grozny, nous sommes volontaires, nous allons faire le jihad. Y a-t-il des Nigériens qui l'ont dit? Pourtant ils peuvent le dire, est-ce que quelqu'un peut le leur interdire? La pauvreté même est une conséquence de l'éloignement du Coran. Lorsqu'on est à côté du Coran, on ne peut pas être pauvre. C'est vrai. Parce que le Coran, un musulman ne doit pas être pauvre. S'il est véritablement musulman, il ne peut pas être pauvre. Parce que l'islam nous demande d'exploiter la loi de la causalité. Ça fait partie de la foi. C'est quoi exploiter la loi de la causalité? La loi de la causalité, c'est l'exploitation, comme je l'ai dit auparavant, des lois cosmiques. Les sciences. L'islam nous demande d'exploiter les sciences, d'étudier, de rechercher, de savoir. C'est une obligation. Ça fait partie, c'est un aspect de la foi. Rechercher le savoir, rechercher la science. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes ignorants. Ce n'est pas l'islam qui a fait de nous des ignorants, mais c'est parce que nous n'avons pas appliqué une partie de l'islam que nous sommes ignorants. C'est parce que nous n'avons pas répondu à l'ordre que l'islam nous a donné, que le Coran nous a donné, que Dieu nous a donné, de rechercher le savoir en tant qu'instrument qui nous permet de construire notre civilisation, la civilisation de l'islam qui a pour point de départ la science. Ne l'oublions pas, le premier verset du Coran nous demande de rechercher le savoir et la science. Donc, nous avons abandonné, nous n'avons pas répondu à l'appel du Coran qui nous demande d'aller chercher le savoir. Tout à l'heure, j'ai parlé des savants musulmans qui ont développé les sciences en réponse à l'appel du Coran, qui ont maîtrisé donc les sciences et les techniques et qui sont devenus la première puissance matérielle et spirituelle de la Terre à l'époque où ils appliquaient, où ils ont compris, où, un tant soit peu, ils ont répondu à l'appel du Coran. Donc la pauvreté n'est pas le propre du... La pauvreté n'est pas musulmane. Ce n'est pas le propre du musulman. Il est important pour nous de le comprendre. Nous sommes pauvres parce que nous ne sommes pas des bons musulmans. Nous sommes démunis matériellement parce que nous sommes également démunis spirituellement. Ça, il faudrait que nous le comprenions très bien. C'est un enchaînement logique. Les vrais musulmans sont matériellement sont aisés, dans l'aisance. Ils sont propres. Ils sont riches. Ils sont... Parce que Dieu l'a dit, « Inna l'izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. » Ouvrez le Coran, feuilletez le Coran, découvrez le contenu du Coran, vous verrez ce que le Coran veut, ce que Dieu veut que vous soyez. Lorsque Dieu a dit, vous êtes la meilleure communauté, ce n'est pas par hasard. On ne peut pas être meilleure communauté et être pauvre. On ne peut pas être meilleure communauté et être analphabète. On ne peut pas être meilleure communauté et être malade. Ce n'est pas possible. Le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, « Al-mu'minu al-qawiyu khayru min al-mu'minu al-da'if. » Le croyant qui est fort est meilleur aux yeux de Dieu que le croyant qui est pauvre, qui est faible, qui est faible. Et cette force-là, ce n'est pas la force physique seulement. Si, il y a la force physique, être en bonne santé, mais il y a la force intellectuelle, la force spirituelle, la force matérielle, etc., etc. Et la faiblesse dont il est question, ce n'est pas aussi la faiblesse physique. Le prophète a donc prophétisé, alayhi salatu wasalam, il a dit, يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى كسأتها. Il se peut que, ou il y a un risque. Quand le prophète parle de risque, ça veut dire que c'est quelque chose d'imminent, alayhi salatu wasalam. Il y a un risque que les autres communautés, les autres nations, les autres civilisations s'appellent mutuellement, s'invitent mutuellement à venir se vous partager en tartine. L'Angleterre qui appelle la France qui appelle l'Allemagne, l'Allemagne qui appelle l'Italie, l'Italie qui appelle le Portugal, ils s'appellent. Pensez à la conférence de Berlin, qui a partagé le monde en colonies, et précisément le monde musulman. Ils se sont invités, ils se sont appelés. On se donne rendez-vous tel jour, telle date à Berlin. On se retrouve avec la carte.